VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 2 août 2016. Au sommaire ce soir...
RDC, l'Union européenne exhorte le gouvernement et l'opposition à aller rapidement au dialogue.
Au Niger, inauguration d'un grand centre hospitalier moderne, un don du gouvernement chinois.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse l'Occident de soutenir le terrorisme et la tentative de putsch du 15 juillet.
Présidentielle américaine, les anti-Trump ne décollèrent pas. Tant chez les démocrates que dans le propre camp du candidat républicain.
Ne manquez pas nos rubriques économie et sport.
D'abord le journal.
En République démocratique du Congo, la délégation de l'Union a exhorté aujourd'hui les autorités congolaises et l'opposition à créer des conditions favorables au démarrage rapide du dialogue national en vue d'élections apaisées. Claire Morangibourg.
C'est par le biais d'un communiqué que l'Union européenne a insisté sur l'importance d'un dialogue inclusif avec, selon leurs termes, toutes les autres parties concernées. Un dialogue qui doit démarrer, selon les Européens, le plus rapidement possible. Samedi dernier, le facilitateur Edem Kodjo avait reporté sine die le démarrage des travaux préparatoires au dialogue national. Le lendemain dimanche, l'opposant Étienne Tshisekedi avait accepté le principe du dialogue national tout en récusant Edem Kodjo, l'accusant de faire le jeu de Joseph Kabila. Fin novembre, le chef de l'État au pouvoir depuis 2001 avait convoqué un dialogue national réunissant majorité, opposition et société civile en vue d'élections apaisées. Dimanche, la commission électorale a lancé des opérations d'enrôlement des électeurs qui devraient se dérouler sur 11 mois, selon son président Corneille Nanga, un délai qui rend quasi impossible la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année, alors que le mandat du président Kabila se termine le 19 décembre.
Burkina Faso, le gouvernement somme un tiers des partis politiques du pays à régulariser leur situation d'ici le 31 août pour éviter leur suspension ou leur dissolution. 42 partis sont dans l'illégalité, d'après le ministère en charge des libertés publiques. Certains n'ont plus organisé de congrès ou d'assemblée générale, comme le prévoit la loi, pour renouveler leur direction politique depuis plusieurs années.
Et en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, exige l'annulation de l'augmentation des tarifs de l'électricité, contre laquelle des manifestations ont fait un mort et des dizaines de blessés à travers le pays fin juillet.
Environ 60 000 personnes ont fui le Soudan du Sud depuis la reprise des combats entre les factions rivales. Nathalie Barche.
Le mois dernier, environ 52 000 personnes ont fui en Ouganda, 7 000 au Soudan et 1 000 au Kenya, a indiqué le HCR. En tout, près de 900 000 Sud-Soudanais ont quitté leur pays depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, selon l'agence onusienne. Les personnes fuyant la violence la plus récente dans la capitale Djouba ont dit avoir été refoulées par des groupes armés sur la route de l'Ouganda. L'accord de paix conclu il y a un an a été menacé à plusieurs reprises par les combats. Au plan politique, c'est toujours l'incertitude. Lama Kole, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a annoncé hier sa démission, estimant qu'il n'y avait plus d'accord de paix à appliquer à Djouba. Il accuse le président Salva Kiir d'avoir fait fuir son ancien vice-président Riek Machar pour lui trouver un remplaçant.
Présidentielle à Sao Tomé et Principe, le président sortant Manuel Pinto da Costa refuse de participer au second tour de l'élection prévue dimanche, dénonçant des fraudes lors du premier tour et exigeant l'annulation de tout le processus électoral. Monsieur Pinto da Costa est qualifié pour le second tour avec 24,83% des voix derrière Evaristo Carvalho, le candidat du Premier ministre Patrice Trovoada.
Niger, le président Mahamadou Issoufou a inauguré à Niamey le plus grand hôpital du pays, construit gracieusement par la Chine, pour un coût de plus de 45 milliards de francs CFA.
En Libye, les forces pro-gouvernementales progressent dans le centre de Sirte, fief du groupe État islamique, au lendemain de frappes américaines. Les détails avec Nani Talani.
La percée des pro-gouvernementaux est intervenue quelques heures après que le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez El-Sarraj et le Pentagone ont annoncé les frappes américaines à Sirte. Hier, les avions américains ont mené leur premier raid contre des positions du groupe État islamique à Sirte à la demande du gouvernement d'Union nationale. Selon un responsable du centre de commandement des opérations, les frappes américaines ont été menées au terme d'un accord écrit entre Washington et le gouvernement d'Union nationale qui a insisté sur la nécessité d'être informé préalablement des raids et des données GPS des cibles pour la sécurité de ses forces. Fayez El-Sarraj a souligné que les raids seraient limités dans le temps et ne dépasserait pas Sirte et sa banlieue, et il n'y aura aucune présence étrangère sur le sol libyen. La Maison-Blanche a confirmé que cette aide se limitera aux frappes et au partage de renseignements.
Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a engagé des consultations sur le chef du futur gouvernement d'Union, dont le nom doit être annoncé cette semaine après un vote de défiance contre le cabinet sortant. C'est ce qu'a fait savoir une source à la présidence.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les avions russes soutenant les forces du régime syrien ont freiné mardi l'offensive des rebelles qui cherchent à briser le siège imposé à leur quartier dans la ville d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'offensive lancée dimanche est la plus importante menée par les rebelles depuis celle de 2012. Les précisions tout de suite avec Tatiana Mosso.
Alep est divisé entre quartier ouest, aux mains du régime, et quartier est, contrôlé par les rebelles et totalement assiégé par l'armée depuis le 17 juillet. Dans cette bataille, le régime est aidé par l'aviation russe et au sol par des combattants iraniens et du Hezbollah libanais. Les rebelles sont soutenus par le groupe djihadiste Front Fateh al-Sham, ex-Front al-Nosra, qui a coupé ses liens avec Al-Qaïda. Selon une source syrienne, quelques 5000 combattants pro-régime sont engagés dans la bataille. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une trentaine de civils ont été tués lundi par des tirs rebelles sur la zone gouvernementale d'Alep. Ailleurs, dans la province d'Alep, un raid aérien a visé la localité rebelle d'Atarabé, causant la mort de 6 personnes et en blessant 15 autres. Le secrétaire d'État John Kerry a exhorté les protagonistes à Alep à faire preuve de retenue. Par ailleurs, les médias officiels ont rapporté que des dizaines de familles étaient sorties des quartiers rebelles à travers des couloirs humanitaires ouverts depuis jeudi par le régime. Le week-end dernier, les autorités syriennes avaient annoncé la sortie de plusieurs familles et la reddition de quelques rebelles, mais des habitants et des insurgés avaient dénoncé des mensonges.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a répété aujourd'hui encore que le coup manqué du 15 juillet dernier a été bel et bien planifié à l'étranger. Lors d'un discours télévisé, le chef de l'État turc a tiré à boulet rouge sur les Occidentaux, les accusant de soutenir le terrorisme et de se ranger du côté des putschistes, une référence à peine voilée au religieux musulman Fethullah Gulen. Cet opposant vit depuis une vingtaine d'années en Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Son réseau d'écoles et d'œuvres caritatives est l'une des principales cibles de la purge post-coup d'État. Plus de 50 000 personnes ont perdu leur emploi en 2 semaines en Turquie et plus de 18 000 ont été détenues.
Les Français ont salué aujourd'hui la mémoire du père Jacques Hamel, 85 ans, égorgé le 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray par deux djihadistes. Les obsèques ont eu lieu dans la cathédrale de Rouen sous haute protection policière. L'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, a salué la présence de représentants des confessions protestantes, juives et musulmanes parmi quelques 2000 personnes venues assister à la messe du Requiem.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a choisi de confier au Britannique Julian King le nouveau portefeuille de la sécurité au sein de l'exécutif européen, un enjeu majeur au moment où l'Europe est en proie à une vague d'attentats djihadistes. M. King va remplacer Jonathan Hill, démissionnaire après le référendum britannique en faveur d'un Brexit. Sa nomination doit encore être approuvée par le Parlement européen et recevoir le feu vert des États membres de l'Union européenne.
La Chine continue de revendiquer ses droits en mer de Chine méridionale. Pékin a annoncé des sanctions sévères contre tous ceux qui pêchent illégalement dans les eaux souveraines de la Chine. Les pêcheurs seront passibles d'un an d'emprisonnement. D'autres pénalités sont aussi prévues. Le mois dernier, un tribunal soutenu par les Nations Unies a validé toute prétention de souveraineté chinoise en mer de Chine méridionale.
Et rappelons quelques grands points de l'actualité africaine. RDC, la délégation de l'Union européenne, a exhorté aujourd'hui mardi les autorités congolaises et l'opposition à créer des conditions favorables au démarrage rapide du dialogue national en vue d'élections apaisées. Au Burkina Faso, le gouvernement a sommé un tiers des partis politiques du pays à régulariser leur situation d'ici le 31 août prochain afin d'éviter leur suspension ou leur dissolution. Il faut dire que 42 partis sont dans l'illégalité au Burkina, d'après le ministère en charge des libertés publiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La page économique aujourd'hui, c'est avec John Linden.
La Camerco reprendra bientôt ses vols vers l'Europe. La compagnie aérienne nationale du Cameroun était sous le poids d'une suspension depuis juin 2016. Cette levée de suspension fait suite à la validation du plan de redressement de Camerco élaboré par Boeing et récemment approuvé par le président camerounais Paul Biya. Moody's vient de dégrader la note du Congo. Cette note, selon l'agence de notation basée à New York, passe donc de B2 à B3. Cette décision intervient après un défaut de paiement intervenu le 30 juin. Du côté de Brazzaville, le gouvernement parle plutôt d'une erreur administrative plutôt que d'un problème de liquidité et s'est engagé à effectuer le paiement qui s'élève à environ 0,25% du PIB du pays. 26,8 milliards d'euros contre 41,3 milliards d'euros à la même période l'an dernier, c'est ce que Eni, le géant italien des hydrocarbures, a encaissé au dernier semestre de cette année, soit une baisse de 35%. Eni est actif dans une quinzaine de pays africains. L'entreprise dit également avoir perdu un peu plus de 1 milliard d'euros.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault.
Bonsoir Morgane.
J-3 avant la cérémonie d'ouverture des JO de Rio et on parle toujours de dopage.
Oui, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, appelle à une révision totale du système de lutte anti-dopage. À 3 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Rio, le CIO souhaite un système de lutte anti-dopage plus robuste et plus efficace, offrant plus de transparence, a déclaré M. Bach, alors que l'incertitude plane toujours encore sur le nombre d'athlètes russes admis à participer à la suite d'un rapport évoquant un dopage d'État en Russie.
En tennis, coup dur pour la Suisse.
Stan Wawrinka, numéro 4 mondial, a déclaré forfait pour ses Jeux olympiques sur blessure, annonce de la Fédération suisse de tennis. Un retrait qui prive le pays de ses 2 meilleures chances de médaille après celui de Roger Federer. On rappelle que Wawrinka a remporté l'Open d'Australie en 2014 et Roland-Garros en 2015.
En football, les joueuses africaines débutent demain le tournoi olympique.
La première journée à Rio, Suède, Afrique du Sud et Brésil-Chine. À Sao Paulo, Canada, Australie et Zimbabwe-Allemagne. Et puis à Belo Horizonte, États-Unis, Nouvelle-Zélande, puis France-Colombie.
Foot toujours, rubrique transfert.
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye s'est engagé avec Everton pour 4 saisons, le montant 8,4 millions d'euros. Le joueur de 26 ans qui arrive en provenance d'Aston Villa, relégué en 2e division, va apporter de la qualité au milieu de terrain. S'est félicité Ronald Koeman, le nouvel entraîneur des Toffees.
Et enfin, Messi, de retour en sélection argentine.
Oui, le nouveau sélectionneur argentin Edgardo Bausa s'est dit optimiste sur les chances d'un volte-face de Lionel Messi qui a décidé de ne plus jouer pour l'Albicéleste après la défaite en finale de la Copa América. Bausa, âgé de 58 ans, vainqueur de 2 Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions, était jusqu'à lundi l'entraîneur du Sao Paulo FC.
Merci Nicolas.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Niger.
Voilà plus d'une semaine que les déclarants en douane de Niamey sont en grève. Ils protestent contre la concession de la gestion des magasins sous douane au groupe français Bolloré. Le syndicat des transitaires, soutenu dans sa lutte par celui des commerçants importateurs, dénonce en plus des tarifs le double rôle que l'entreprise française veut jouer, à savoir celui de gestionnaire des magasins et de déclarant en douane. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
À l'entrée de la vaste clôture du bureau des douanes de Niamey-Rive-Droite, beaucoup de jeunes gens, pour la plupart des conducteurs de camions venus avec des marchandises, ils attendent pour certains depuis des semaines d'être déchargés pour pouvoir repartir.
J'ai pris 3 jours pour venir à Niamey ici. Et aujourd'hui, voilà, je viens de faire 30 jours. Je ne sais pas comment mon chariot commence à aller dedans. Je ne veux pas dépasser et vérifier là. Chaque jour, la pluie tombe sous ça. On va à son bureau, il dit « Inch'Allah, Inch'Allah, ça va aller. » On ne voit rien. On est là, on est nombreux.
Beaucoup de commerçants propriétaires de ces marchandises hésitent ou refusent en effet de faire décharger leurs produits dans les magasins pour cause un nouveau gestionnaire est là avec de nouveaux tarifs. Chebou Tchambiano, secrétaire général du syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger.
Nous importons 300 000 tonnes de riz par an. Avec les prestations de Bolloré, nous allons lui verser 964 500 000 francs. Lui, Bolloré, il donnera en contrepartie 75 millions. Avant, il était à 195 millions. Ça, c'est la pratique avant Bolloré.
Le mouvement de protestation a été lancé par le syndicat national des transitaires, Tijani Mahamadou, et son secrétaire général.
Nous sommes en train de décrier le fait qu'il y a d'abord une concurrence déloyale qui entraîne une rupture d'égalité entre Bolloré transitaire et les nationaux. Il ne peut pas avoir les deux fonctions à la fois, transitaire et exercer encore le métier des gestionnaires des magasins sous douane.
Jusqu'ici, c'est la direction générale des douanes qui assurait la gestion des magasins et le gouvernement nigérien a estimé que c'était contraire à sa mission. Zachary Sido, directeur général adjoint de la douane du Niger.
Que la gestion soit confiée à une autre structure, c'est ce qui est normal parce que l'État ne peut pas être gestionnaire des magasins sous douane et demander à la douane d'accompagner les formatés douanes. C'est anachronique et on veut respecter les procédures.
Pourquoi l'État veut donner justement au groupe Bolloré la gestion de ces magasins?
C'est une souveraineté de l'État. Il y a eu des contrats de partenariat dans d'autres domaines. Pourquoi pas en matière douanière?
Ces explications font penser au niveau du syndicat des transitaires à une connivence entre le groupe français Bolloré et l'État du Niger. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Nous poursuivons notre série sur les familles des présidents africains. Ce soir, coup de projecteur sur la Guinée. Malgré l'interdiction faite à la famille du président Alpha Condé de se mêler de la gestion des affaires publiques, son fils se trouve être un de ses conseillers. Pire, il est accusé de corruption. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Vrai qu'il est mêlé à toutes les affaires minières ici.
Bon, moi je ne saurais le dire exactement, puisque je n'ai pas d'informations par rapport à ça.
Bien sûr, ils sont impliqués, beaucoup même, surtout son fils.
Son fils est impliqué dans le secteur minier, voilà, et largement même. Ça, c'est reconnu de tous.
Ce que je cherche, la famille n'est pas impliquée de près ou de loin dans la gestion du pays. Sa femme n'est ni ministre, son enfant n'est pas ministre. Il ne gère pas une association ou bien une entité gouvernementale.
Ils ne sont pas nombreux à se réclamer de la famille du président Condé. Ils sont presque absents de la scène politique en Guinée. Au RPG Arc-en-Ciel, on rejette toute accusation contre la famille du président. Suleiman Keïta, responsable des jeunes du parti et conseiller à la présidence de la République.
Vous voyez, le gouvernement, il n'y en a nulle part. Le président est un rassembleur. Il fait la différence entre la gestion de l'État et de ce qui n'est pas État. Donc ce plan ne se pose pas.
Si le sujet est tabou à la mouvance présidentielle, le député Jean-Marc Téliano, ancien ministre de l'Agriculture, n'y va pas dans la langue de bois.
Quand vous parlez de sable mining, son fils est l'instigateur principal. Vous savez, on a toujours parlé d'audit. C'est Alpha Condé qui est monté sur ses chevaux pour parler d'audit. Mais aujourd'hui, il ne peut plus parler d'audit.
Le 11 mai dernier, le président Condé avait annoncé que la justice guinéenne allait faire la lumière sur les conditions dans lesquelles le Britannique Sable Mining a acquis ses concessions minières en Guinée. Une réaction aux accusations de corruption révélées dans un rapport de Global Witness. Des révélations qui ont fait réagir les députés de l'opposition.
Nous avions demandé des enquêtes parlementaires, surtout concernant Sable Mining, et vu l'implication de Bouba Sampil et Mohamed Alpha Condé. Mais toujours, nous n'avions pas eu d'issue favorable.
Ce n'est pas un fait nouveau que la famille d'un président guinéen soit citée dans une affaire de corruption. Les membres de la famille du feu général Lansana Conté avaient brillé par leur rôle dans les activités politiques et économiques en Guinée. Dans un récent rapport publié par les Panama Papers, figure en bonne place l'ex-quatrième épouse de l'ancien président Lansana Conté dans le scandale de la société BSGR, Conakry Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Le pape François vient de mettre en place une commission d'études spéciale sur le rôle des femmes diacres au début du christianisme. Les diacres catholiques sont tous des hommes pour le moment. Des observateurs voient dans la démarche du souverain pontife une ouverture potentiellement historique sur la place des femmes dans l'Église catholique. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint le journaliste Albert Mizankuta de Radio Vatican.
Les diacres, à ne pas confondre avec les prêtres, sont des hommes catholiques qui sont d'ailleurs pour la plupart mariés, qui sont autorisés à prononcer l'homélie durant la messe, ce qu'on appelle le sermon. Ils peuvent célébrer les baptêmes, les mariages, les funérailles, mais ne pas dire la messe, ça c'est un rôle qui est dévolu exclusivement aux prêtres. Ils ne peuvent pas non plus confesser les fidèles.
Cette commission est-elle synonyme d'une démarche d'ouverture sur la place des femmes dans l'Église catholique?
Alors, il faut être prudent et ne pas aller vite en besogne. D'abord, il faut voir l'intitulé de la commission. C'est un groupe qui est appelé à réfléchir sur le rôle des femmes dans les premiers temps du christianisme. Donc, essayer de voir comment cela se passait. Et donc, de là, on peut déduire que les conclusions de cette commission sont appelées à être disséquées, tamisées et voir de quelle manière elles peuvent être rendues compatibles avec l'évolution de l'Église et de la société aujourd'hui. De cela peut sortir une chose, on aille au degré supérieur en disant voilà, les femmes peuvent être diaconesses, sinon garder le statu quo en disant il n'y a pas de grand dommage à faire évoluer cette situation, mais ça c'est le pape qui déciderait et c'est la commission qui le proposerait.
L'Église catholique, d'ailleurs, s'oppose toujours à l'ordination de femmes prêtres. Cette commission va-t-elle vraiment pouvoir recommander un début de changement?
Déjà, sa composition laisse à penser que finalement, il y aura certainement en son sein un débat contradictoire. Vous savez, elle se compose de 13 membres. Elle est guidée par un jésuite espagnol. Mais là-dedans, il y a 6 femmes et 6 hommes. Je suppose qu'on ne peut pas réunir une commission pour après aboutir à la conclusion que eh bien, finalement, tout va bien comme c'est, il n'y a rien à changer.
Un prêtre rwandais fait également partie de la commission. L'Église catholique en Afrique est-elle divisée sur la question d'après vous?
Non, il n'y a pas eu de position claire et ferme sur ce point de vue. Vous savez, l'Afrique, il y a des thèmes sur lesquels elle est farouchement arc-boutée, tels par exemple les thèmes de la famille, la reconnaissance des unions homosexuelles, etc. Mais ici, pour l'ordination des femmes, cela ne pose pas de problème particulier ni à l'entendement, ni même à la pratique de l'Église. Dans les paroisses aujourd'hui, les femmes peuvent aussi bien distribuer la communion que les hommes, les femmes, les religieuses par exemple, mais aussi les laïcs. Et donc je suppose que l'Afrique n'y verrait que du bien.
Le journaliste Albert Mizankuta est en ligne de Rome en Italie.
Ici aux États-Unis, de Barack Obama jusqu'à son propre camp républicain, Donald Trump est sur toutes les lèvres. Il fait l'objet de sévères critiques pour s'en être pris à la famille d'un officier musulman américain tué au combat en Irak, Idriss Fall.
En tant que commandant en chef, j'en ai assez que certains dénigrent l'armée et les troupes américaines, a déclaré hier lundi Barack Obama dans une référence à peine voilée au candidat républicain. Les familles des soldats tués au combat ont fait un sacrifice que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Nous devons tout faire pour les honorer et faire preuve d'humilité face à elles, a ajouté M. Obama lors d'un rassemblement d'anciens combattants handicapés à Atlanta. Se moquer de la mère d'un soldat tué au combat dépasse les limites, s'est insurgée la puissante association d'anciens combattants américains à l'étranger. Son président Ryan Duffy a affirmé que quand on touche à certains sujets sacro-saints, il n'y a aucun talent rhétorique qui puisse réparer les dégâts. Les familles de 17 soldats tombés au champ d'honneur ont dénoncé ces propos comme étant répugnants et insultants.
Alors, qu'est-ce qui a déclenché toute cette levée de boucliers contre Trump ?
Il a touché à un sujet très sensible aux États-Unis où les militaires sont perçus comme des héros capables de donner leur vie pour défendre la liberté. Tout a commencé pendant la convention des démocrates. Le père du capitaine Humayun Khan, mort en Irak en 2004 en tentant de sauver ses hommes, avait reproché à Donald Trump son projet d'interdire aux musulmans l'entrée aux États-Unis pour lutter contre le terrorisme. Monsieur Trump avait réagi à cette attaque qu'il a qualifiée de vicieuse et insinuée que la mère du soldat présente à la convention avait été forcée au silence parce qu'elle était musulmane. La mère lui a répondu dimanche que la douleur de la perte de son fils l'avait empêché de parler.
En effet, c'est seulement le père qui a pris la parole et a accusé Donald Trump. Cette affaire a fait des vagues jusque dans le propre camp du républicain.
Le très respecté sénateur John McCain, lui-même un ancien combattant du Vietnam où il avait subi des années de torture, a aussitôt déclaré qu'il est temps pour Donald Trump de donner l'exemple à notre pays et au Parti républicain. La petite fille du sénateur Caroline McCain, elle-même républicaine, a annoncé lundi qu'elle voterait pour la démocrate Hillary Clinton le 8 novembre, qualifiant d'impardonnable les propos de Trump. L'état-major du Parti républicain a dénoncé ses propos, mais sans aller jusqu'à lui retirer son soutien.
Alors, Idriss Fall et Hillary Clinton dans tout cela?
Hillary Clinton a appelé les républicains à choisir les intérêts du pays plutôt que le parti. La candidate démocrate a engrangé un nouveau soutien. Le milliardaire Warren Buffett s'est joint à elle lors d'un meeting à Omaha dans le Nebraska et il a accusé Donald Trump de refuser de publier sa situation fiscale. M. Buffett a tiré à boulet rouge sur M. Trump en s'exclamant: comment diable pouvez-vous faire face à des parents qui ont perdu un fils et pouvoir parler d'avoir fait des sacrifices parce que vous construisez quelques immeubles? Reste que Donald Trump a la peau dure, il avait déjà attaqué John McCain. Personne ne pensait qu'il se releverait après le tollé. Il a pourtant remporté l'investiture républicaine contre 16 adversaires. Et en mai, John McCain lui-même a annoncé son soutien au milliardaire, même s'il n'est pas allé à la convention des républicains.
Merci Idriss Fall.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. On avait Lionel Gaïma à la mise en onde avec l'assistance de Souleymane Tarawalé, présentation Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24/24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.